Radio Chablais,
spéciale élection.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce débat au sujet de la fusion entre les communes de Blonay et de Saint-Légier-la-Chiéza. Pour en parler, j'ai avec moi 4 personnes, 2 pour le oui, 2 pour le non. Mais avant de les présenter, on va rappeler brièvement les événements. Alors, le 21 janvier dernier, les conseils communaux des deux communes ont accepté le principe de la fusion. Celui-ci a été approuvé par 53 oui, 6 non et 3 abstentions à Saint-Légier. À Blonay, le score était de 38 oui, 18 non, 3 abstentions. Comme le veut la loi, c'est au peuple de se prononcer pour accepter cette fusion. Le vote était fixé au 17 mai et là, l'épidémie est arrivée. C'est donc le dimanche 27 septembre, jour de votation fédérale, que cette fusion va se décider. Tout cela était bien parti, mais c'était sans compter sur la réaction et la création d'un comité pour le non. Celui-ci se veut de plus en plus actif avec des arguments dont nous allons tenter de discuter ce soir. Et cet argument principal, le manque de débat public, on va se poser la question. Mes invités, dans le camp du oui, j'ai Sylvain Guillaume Gentil, conseiller communal du groupement des indépendants. On verra tout à l'heure si ça a une importance ou pas. Et il est à Blonay. Et Grégory Beauvais, conseiller communal PLR à Saint-Légier-la-Chiéza, vous avez vu, on a réparti également dans les camps les deux communes. Dans le camp du non, Marie-France Vuillot-Burnier, conseillère communale Vert ou Vert à Saint-Légier-la-Chiéza, et un représentant de la société civile, Charles Morard. On va donc préciser, comme j'ai dit, que vous parlez en votre nom. C'est un élément intéressant parce qu'à l'intérieur même des partis, il y a des désaccords concernant ce projet de fusion. Je vais démarrer avec vous, Marie-France Vuillot-Burnier. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, à l'occasion des débats publics qui ont eu lieu, il y en a eu deux ces deux dernières semaines, vous avez évoqué un déni de démocratie à l'occasion des débats. Maintenant, est-ce que les choses sont réglées? Est-ce qu'on a pu discuter de cet objet, finalement?
Alors, nous n'avons pas discuté de cet objet et je dirais que, cerise sur le gâteau, nous avons eu dernièrement le plaisir de recevoir des municipalités une lettre pour les destinée aux habitants et aux habitantes des deux communes. Cette lettre n'a été adressée qu'aux chefs de famille, donc qu'aux messieurs de la commune. Donc là, quand même, c'est un nouveau déni des démocraties et je trouve que c'est un déni beaucoup plus grave encore que les deux autres dénis, puisque la partie féminine de la population a été totalement ignorée. Ça, c'est le premier déni, disons, le plus grave, à mon avis, et celui qui arrive en dernier. Mais si on remonte rapidement dans l'affaire, dans l'histoire, disons, de ce processus de fusion, je dirais que, d'abord, le canton a encouragé les communes à fusionner en mettant à leur disposition un guide pour les fusions dans lequel le canton encourageait les communes à faire participer la population aux groupes de travail, à la réflexion des groupes de travail et ouvrir ça à des citoyens non élus mais qui auraient été intéressés par ces problématiques. Alors, dans les conseils communaux, un grand nombre de conseillères et de conseillers ont demander aux municipalités de bien vouloir intégrer la population civile et les municipalités ont volontairement écarté la population civile de ce processus de fusion.
Grégory Beauvais, je vous vais lever votre micro. Alors, la population civile, elle est impliquée ou pas? C'est vrai qu'il y a 3 conseils communaux ici à cette table.
Oui, écoutez, je vais répondre à Madame Vuillot, notamment par rapport à la lettre. La lettre a été envoyée par les autorités. Hein. Aujourd'hui, on débat. Il vous a pas manqué. Nous sommes le comité du oui, nous ne sommes pas les autorités. Et puis finalement, on espère que cette lettre a transité à travers le ménage. C'est vrai qu'il est peut-être regrettable qu'elle ne fût qu'adressée qu'aux chefs de famille. Mais ma foi, c'est comme ça.
Il y avait un petit peu ces suspicions de ce débat est trop important pour en parler avec avec la population.
Oui, bah écoutez, si les autorités avaient envoyé à tout le monde, de toutes les personnes dans le ménage, on aurait pu aussi avoir la remarque inverse en disant mais que faisons-nous de l'écologie, il y a trop de papier, etc., etc. Je crois que le plus important, c'est de revenir à la chose la plus fondamentale, c'est le fond. Et puis c'est un petit peu le problème du coin du nom depuis plusieurs semaines, voire quelques mois, c'est qu'il s'attarde beaucoup sur des questions de forme et des questions annexes à la réelle question de fond de ce projet de fusion. Et puis par rapport à la participation, vous dites qu'il y a eu énormément de conseillers communaux qui...
nombreux conseillers communaux.
Oui, vous avez dit nombreux, ben voilà, c'est un synonyme de nombreux conseillers communaux. Moi, j'ai lu les PV avant de venir, madame, de nos conseillers communaux, que ce soit à Saint-Léger-la-Chaise-A et également à Blenay, et je ne trouve pas grande place à ce point-là. Maintenant, ben voilà, place au débat.
Charles Morard, vous êtes donc membre de la société civile. Les conseillers communaux, ils représentent la population aussi.
Effectivement, les conseillers communaux représentent la population, mais comme c'est inutile de le rappeler, la Suisse dispose d'instruments politiques. C'est une démocratie semi-directe et le citoyen est en droit d'émettre son avis et d'être informé de l'évolution d'un projet. Or, moi, en tant que représentant de la société civile et en tant que simple citoyen, j'ai quand même cette impression que j'ai été averti très tard dans le processus et qu'on m'a dérobé, en réalité, une part très importante du débat. Vous parliez de causes profondes, vous parliez de forme. Pour moi, il y a deux questions qui n'ont pas été abordées dans les débats. On parle beaucoup d'efficience, mais deux de ces questions sont l'identité, tout d'abord. Tout d'abord, les deux villages ont une identité. Je ne veux pas que Saint-Léger devienne un faubourg. Je ne veux pas que la vie sociale disparaisse de Saint-Léger. Ni, et c'est anecdotique, je suis d'accord, la croix tréflée sur la bannière ainsi que toute sa force historique. Je pense qu'à notre époque, la technocratie n'est plus à la mode et qu'une proximité qui passe, enfin la solidarité qui passe par la proximité est quelque chose d'important pour la population. Un autre point que je trouve essentiel, c'est le fédéralisme qui est souvent mis de côté en Suisse. Je donne souvent l'exemple de Glaris qui n'a plus que 3 communes. Moi, ce que je veux savoir, c'est quel est le sens de ces extensions, quel est le rôle de la commune, quel est le rôle que vous voyez pour la commune et surtout quels sont les arguments autres que l'efficience que vous voyez pour cette fusion de communes.
On va détailler ça. Sylvain, Guillaume Gentil, je vous repose la question initiale aussi. On a eu 2 débats publics. On a un vote. Effectivement, la population pourra éventuellement se prononcer. Est-ce que pour vous, c'est suffisant? On a fait le tour du problème. On aura fait le tour du problème aussi après cette demi-heure.
Oui, mais vous n'avez pas tout dit. C'est qu'il y a eu 2 débats, mais il y a eu bien plus. C'est-à-dire que le processus, ça fait 5 ans qu'il a commencé. On a eu effectivement d'abord des questions qui ont été posées sur rapprochement ou fusion. Donc tout est venu progressivement. Il y a eu des groupes de travail qui ont été constitués. Et ces derniers temps, quand je dis ces derniers temps, c'est ces 18 derniers mois, il y a eu des séances d'information. Il y a eu 4 séances d'information, un site internet. Il y a eu 3 débats, enfin 2 en présentiel et 1 aujourd'hui à la radio. Il y a eu des publications, etc. Donc on voit que c'est difficile de dire qu'on n'a pas pu être informé. Et de toute manière, c'est évident, c'est le peuple qui aura le dernier mot, et ça, c'est la loi cantonale qui le veut. Donc, je dirais que sur la forme, c'est difficile de dire qu'il n'y a pas pu avoir de débat, que les gens n'ont pas pu s'impliquer là-dedans. Je pense aussi qu'il faut revenir sur l'objet. On n'est pas en train de faire un projet politique, on est en train de, finalement, définir un cadre. On est sur un document, sur une votation par rapport à une convention de fusion. C'est un document qui est finalement assez légal, administratif. Et il faut aussi se rendre compte que, évidemment, qu'une démarche participative, c'est un élément qui est extrêmement important. Mais il faut voir pour quel objet. Quand on est sur un projet ou une politique créative où on attend que les gens puissent apporter des éléments, des idées innovantes, ça peut être pour une politique d'aménagement du territoire, pour l'aménagement d'une place ou ce genre de choses. Là, bien entendu qu'on a besoin de l'implication de la population, mais là, on était sur un document légal, on cherche le nom de la commune, on cherche finalement la manière dont on va concevoir le conseil communal, c'est des éléments relativement arides, et là, la démocratie représentative, avec finalement des conseillers communaux qui représentent toute la population, tous les courants politiques, les jeunes, les vieux, les gens de Saint-Léger, les gens de Blenay, enfin voilà, ces gens-là ont toute la légitimité, et puis je dirais que c'est aussi des gens qui ont accepté de s'impliquer. Il faut se rendre compte que les groupes de travail et tous les rapports qui ont dû être faits, ça, c'est exigeant. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont été d'accord de passer des soirées, des week-ends à étudier tout ça, pour finalement dégrossir ce travail relativement, qu'on peut même qualifier peut-être des fois de rébarbatif. Donc il n'y a aucun déni de démocratie. Je crois qu'on s'est appuyé sur des gens qui représentent le peuple, et pour ça, je pense que c'est tout à fait judicieux.
Marie-France Vuillot-Burnier, on a même consulté la population, enfin un sondage auprès de 800 personnes pour déterminer le nom de la commune. Finalement, ça me semble relativement démocratique, non ?
C'est relativement démocratique pour ce... préoccupé seulement d'un petit détail, parce que finalement, le fond même de l'histoire, du processus de fusion, ça c'est vraiment, et là a été fait, comme M. Guillaume Gentil vient de le dire, le fond même, ça a été les groupes de travail qui ont travaillé sur le sens de ce que c'était une fusion ou un rapprochement. Je vous précise quand même, pour montrer combien cette démocratie représentative est peu démocratique. Les municipalités ont choisi elles-mêmes 15 conseillers dans chacune des communes sur 65 pour travailler, pour participer à ces groupes de travail. S'il vous plaît, laissez-moi terminer, je vous prie. N'est-ce pas ?
C'est chacun. Comme n'importe quelle commission ad hoc, Mme Fouillot.
S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Chaque personne qui a travaillé dans ces groupes de travail a eu l'obligation de respecter une stricte confidentialité des débats internes. Aucun rapport de minorité n'a été accepté au sein de ces commissions sous prétexte qu'il s'agissait de commissions municipales. Et donc, les 50 autres conseillers n'ont pas pu débattre des conclusions des rapports de travail. Et, cerise sur le gâteau, le rapport du comité de pilotage qui a été soumis au débat, lui a été soumis au débat des conseils communaux, eh bien, il ne reflète pas exactement les conclusions établies par les différents groupes de travail.
Grégory Bovet, je vous laisse répondre pour le camp du oui à cette question.
Oui,
on va passer à l'objet suivant.
À la question d'identité que M. Morard disait tout à l'heure. Je ne crois pas que la fusion, nous n'allons pas fusionner nos identités, nos traditions. Moi, je suis navré, mais... quand vous allez vers quelqu'un qui habite Épesse, il ne dit pas « j'habite Bourron-Lavaux », il dit toujours « j'habite Épesse ». Quand vous allez à Gstaad, la personne, vous savez que la commune de Gstaad n'existe pas, c'est la commune de Sannen. Et c'est la même chose à Lauenen, qui est aussi la commune de Sannen. Et puis c'est un village propre, avec leur identité propre. Quand je vous entends parler de fédéralisme, etc., etc., ça me fait un petit peu doucement rire. Vous savez, les communes, elles ne sont pas souveraines en elles-mêmes. Elles sont tributaires des compétences que le canton veut bien leur donner. Et par rapport à Glaris, M. Morard, je ne pense pas également que les nombreux villages, qui forment les trois différentes entités communes ont perdu leur identité villageoise. Je crois vraiment que c'est un faux débat. Et puis sinon, je crois que finalement, avant tout, c'est la population qui fait l'identité. C'est la population qui crée une société. C'est l'engagement de chacun dans un engagement politique, associatif, social, culturel, et je crois que cela va rester. Les sociétés locales vont rester, les groupes de sport vont rester, le FC Saint-Léger, le BBC Blenay vont continuer à s'appeler Blenay Saint-Léger, les gens vont continuer à habiter Saint-Léger-la-Chaise, vont continuer à habiter Blenay, et finalement c'est très bien ainsi.
Alors je vous propose de développer cette question de l'identité, vous pourrez répondre par la même occasion. Il est question, Charles Morard, de mettre les ressources en commun, d'entériner des associations qui sont déjà à cheval sur les deux communes. On rappelle aussi, je vais rappeler à quoi ressemblerait le résultat, on parle de 12 000 habitants environ, entre 11 et 12 000, une surface de 3 000 hectares avec une répartition plus ou moins égale entre les deux communes. On obtiendrait la troisième ville de la Riviera avec un nom, Blenay-Saint-Léger, donc on a les deux communes dedans. On a ce drapeau commun qui, après je vous laisse argumenter, hein, je ne suis pas en train de défendre un projet, qui rassemble les armoiries, les imageries des deux communes. Finalement, une importance telle que celle-là, ça ne vous fait pas un petit peu rêver,
Alors, pas du tout, parce que pour moi, déjà, la taille, elle induit plutôt une perte d'efficacité. Pour moi, on juge de la qualité d'un service communal principalement à sa simplicité, à sa facilité d'accès, à sa proximité. Si on étend le territoire, on éloigne les services, mais aussi les flux d'informations, de marchandises et de personnel, on augmente les déplacements, ce qui n'est pas enviable non plus. D'ailleurs, on ne deviendrait pas non plus la troisième ville, parce que la Tour de Paix resterait avec un nombre d'habitants plus grand. Et pour revenir sur le sujet, alors On m'a donné des exemples de personnes qui ont gardé leur identité. Je pourrais donner l'inverse, mais je ne vais pas me perdre là-dedans. Ce que je vois simplement, et ce qui me déplaît là-dedans, c'est qu'on a un langage très technocratique. Ce que j'aimerais rappeler, c'est que bien sûr, la fusion de Blonnet-Saint-Légier, elle est ce qu'elle est, mais les actes ont des conséquences, notamment sur le fédéralisme. Vous l'avez dit vous-même, on voit que le fédéralisme tend à disparaître graduellement dans l'histoire. On le voit avec l'Empire romain. En Espagne, demandez aux Catalans ce qu'ils pensent de la centralisation. Mais en Suisse, on voit bien que certaines tâches ont glissé et glissent encore vers le canton. Si bien que depuis 1848, un certain nombre de tâches initialement confiées aux communes ont été transférées à l'État. L'exemple type, c'est Armeau, c'est la convention scolaire romande, les tâches de police, certaines tâches de la santé. L'exemple de Fribourg est intéressant parce que les communes avaient la responsabilité de 62 tâches, mais 29 ont été cantonalisées avant que les communes ne commencent à réagir. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une cantonalisation des tâches que moi je refuse parce que pour moi, l'histoire suisse, ce n'est pas ça. L'histoire suisse, ce n'est pas Tocqueville qui disait que le ruissellement va de Paris vers les régions. Chez nous, c'est l'inverse. C'est normalement les communes qui ruissellent sur le canton, qui ensuite ruissellent sur Berne.
Sylvain, Guillaume Gentil, c'est le début de la centralisation, cette fusion ?
Non, pas du tout. Enfin, à mon avis, on est là en présence de choses qui n'ont rien à voir avec Tocqueville, le canton de Fribourg ou ailleurs. On est en présence de deux villages qui finalement sont les deux moitiés d'une même entité. Il faut se rendre compte qu'on ne sait pas, et les habitants de Blonnet-Saint-Légier ne savent probablement pas tous exactement où passe la limite. On est dans le même tissu urbain, on a la même population, la même structure de population, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes envies, etc. Donc finalement, de regrouper ces deux entités au sein d'une seule, c'est d'une logique et d'une cohérence qui nous semble assez évidente. Je ne suis pas sûr que M. Morard comprenne vraiment quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés aujourd'hui sur des choses souvent toutes simples dans la gestion quotidienne des communes. Ce n'est pas la question... Oui, alors bien sûr, la question vis-à-vis de la population est importante, mais il faut aussi se rendre compte que pour des questions toutes simples, comme par exemple, je ne sais pas, la gestion par exemple du Covid dans les écoles, eh ben aujourd'hui, la direction des écoles doit aller voir l'une et l'autre des communes, qui sont les deux autorités, pour régler des problèmes tout simples, savoir comment on va se laver les mains avec les enfants, etc. Des choses toutes bêtes. Et des choses comme ça, il y en a beaucoup. Je veux dire, quand on veut planifier une piste cyclable d'un village à l'autre, ça fait des années qu'on l'attend, eh ben voilà, il faut un projet qui doit déboucher forcément sur l'autre commune, donc il faut s'entendre, il y a du ping-pong. Et ça, c'est une perte d'efficacité quotidienne qui est assez évidente. Et je pourrais en citer plein de projets.
On va rester dans le même cas de figure, hein, voilà. On va s'entendre avec Vevey pour les bus, etc. Enfin, ça ne va pas résoudre tous les problèmes.
Bien sûr, on doit bien
amender les cyclables.
Mais je veux dire, il y a quand même un état de fait, c'est qu'on est sur une entité ici très cohérente en termes de territoire, en termes de structure de population. Alors, bien sûr qu'on pourrait étendre beaucoup plus loin, mais ce qui est assez évident, c'est surtout ces deux communes-là, parce qu'on est finalement avec une identité aussi quasiment la même aujourd'hui des deux côtés de l'Oyonne, qui est la rivière qui sépare les deux, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sépare les deux villages.
Oui.
L'Oyonne.
Marie-France Vuillot-Burnier, si je vous dis 80 conseillers communaux et pas 130, une municipalité à 7, on a des problèmes de recrutement, on a les élections communales de notre côté en Valais, on le voit, on a moins de candidats que de postes, on a aussi le même problème dans le canton de Vaud, des gens démissionnaires. Est-ce que d'une part, on ne peut pas, par ce moyen, augmenter la qualité, pardon pour le terme, des conseillers communaux, mais aussi leur implication dans le processus politique qui, justement, a des enjeux suffisamment importants comme ceux des fusions.
Alors, ça, c'est ce que les partisans du oui nous disent, c'est-à-dire qu'ils prétendent que 65 conseillers communaux par village, c'est beaucoup trop parce que les partis n'arrivent pas à recruter. Or, si on veut véritablement représenter la population, il est clair que entre 65 conseillers communaux ou 37, par exemple, comme il y aura ensuite pour la représentation de Saint-Légier, on est vraiment dans une perte de représentativité, là, vraiment, une perte de représentativité. Déjà qu'il n'y a pas de démarche participative, si en plus de ça, il y a une perte de représentativité, je ne vois pas très bien quel est le côté positif de cette fusion. D'ailleurs, si je prends l'exemple seulement de Saint-Légier, seulement de cette commune, on s'aperçoit quand même que pour cette commune, la fusion est vraiment synonyme de marché de dupes. En effet, Saint-Légier perdra non c'est seulement, pour ça que s'il vous plaît...
On vous laisse.
Merci, monsieur. Saint-Légier perdra sa croix tréflée, perdra le nom de la Chiesa, il s'appelle Saint-Légier-la-Chiesa actuellement, et puis l'administration communale qui va partir de Saint-Légier pour venir à Blenay, de même que le siège du bureau électoral qui va migrer de Saint-Légier à Blenay. Donc en perdant, en plus de ça, à peu près la moitié de ses conseillères et conseillers communaux, eh bien, Saint-Légier va redevenir, comme l'histoire nous le rappelle, non seulement le faubourg de Blenay, mais vraiment le sujet des seigneurs de Blenay, n'est-ce pas ?
On l'attendait celle-là. Les gens qui connaissent l'histoire locale, on l'attendait celle-là.
Oui,
Blenay va rebouffer, pardon pour l'expression, Saint-Légier, combien même. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours Blenay-Saint-Légier, Blenay vient toujours en premier.
Ma foi, c'est parce que ça sonne mieux. Ma foi, moi, j'ai mon frère qui s'appelle Steve. Quand mes parents nous appellent, ils disent tout le temps Steve et Grégory. C'est comme ça. C'est pas bien grave. Madame Vouillot-Burnier, c'est très rigolo parce que vous parlez des noms, de l'armoirie et du siège, etc. Puis je remarque que quand on a dû voter, eh bien, on a fait article par article, hein, la convention de fusion à Saint-Légier. Et puis la discussion a été ouverte. La parole n'a pas été demandée, que ça soit pour le nom, les armoiries, la bourgeoisie. Je rappelle quand même que le nom a été décidé par la population. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc voilà. Maintenant, sur la question de la représentativité des gens de Saint-Légier et de Blenay. C'est pas tout à fait correct parce que, premièrement, la première législature, on aura des représentants de Saint-Légier automatiquement et des gens de Blenay automatiquement. Et puis finalement, vous savez, moi j'aime Blenay. J'habite Saint-Léger, mais j'aime Blenay. Donc ça veut dire que quand il y aura des projets au haut de la Hondala ou bien aux Pléiades sur la commune de Blenay, eh ben, si c'est bien pour nos communes, si c'est vraiment positif, j'ai beau habiter Saint-Léger, je vais voter pour Mme Vouillot. Parce que c'est ça peut-être la différence entre le camp du oui et le camp du non. C'est que vous avez l'impression d'aimer un village et puis en parallèle aussi aimer un autre. Nous, on aime les deux de manière inconditionnelle.
On ne risque pas de tirer sa couverture de Blenay-Jean.
Juste un argument aussi, parce que quand on parle de démocratie, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, avec deux communes qui doivent gérer souvent les mêmes objets, on a dû externaliser un certain nombre de services, comme celui, par exemple, de la petite enfance, qui finalement, aujourd'hui, est une entité en soi, qui échappe finalement au contrôle des conseillers communaux. Et ça, c'est effectivement une solution qui pourrait s'éteindre dès le moment où on a les deux communes qui fusionnent, parce que ça pourrait devenir un service communautaire comme les autres, avec une meilleure gestion, un meilleur contrôle. Donc, il faut aussi se rendre compte que du fait qu'on doit gérer et beaucoup de choses, hein, je veux dire, on parle ici de la petite enfance, mais il y a plein de choses qui sont gérées à double par les deux communes, finalement, en ayant une seule entité politique, ça permet aussi de redonner de la cohérence et d'avoir une meilleure gestion et un meilleur contrôle. Et ça, c'est pas un détail, et ça va dans le sens d'une meilleure démocratie.
Chambrard, une entité coûte moins cher que deux entités, finalement ?
Alors, moi, j'ai déjà répondu concernant l'efficience et les finances, dans le sens où il y a un très bon article du Temps qui parle justement une fusion de communes ne doit pas être qu'une question économique. Je le trouve très, très bien écrit. Maintenant, pour revenir sur la petite enfance, j'ai beaucoup aimé l'utilisation du conditionnel, c'est-à-dire qu'on pourrait, ça devrait, mais c'est toujours... On ne sait jamais réellement.
C'est normal, c'est la nouvelle commune qui devra le définir. On n'a pas la légitimité de le décider aujourd'hui, mais ça, c'est la cohérence même.
Et c'est un peu ce qu'on a l'impression, c'est qu'on nous vend un petit peu du vent. Ensuite, concernant la représentativité... moi, je pense qu'on est dans une crise politique, ça, on peut pas le nier, une crise de la représentativité. Si ce n'est que la politique, les moyens, les instruments de politique non conventionnels augmentent, comme la manifestation et les grèves. Moi, je pense que c'est quand même, il y a des causes plus profondes, et je pense que la fusion ne sera pas le remède miracle, ce sera pas un sparadrap qui se mettra sur une plaie qui est bien trop grande. Je pense qu'il y a un réintérêt à faire par l'éducation, il y a un réintérêt à donner par les partis en proposant de nouvelles choses, parce que quand même, quand on s'inscrit dans un comité du non en tant que représentant, en tant que simple citoyen, je dois dire qu'on a quand même cette impression d'hermétisme de la classe politique, et vous l'avez dit sans le vouloir, j'en suis sûr, mais en disant que je ne savais pas, que je n'étais pas au courant d'eux, etc. On a quand même l'impression qu'il y a plus une forme de discrédit des idées émanant du peuple, de la classe politique, plutôt qu'une réelle écoute.
On comprend les arguments de chaque côté. Il est question, comme vous l'avez dit, de mettre en place un cadre par rapport à la fusion. Je vous propose de changer d'objet, de passer à un thème qui va vous mettre tous d'accord, c'est les finances. Évidemment, c'est un des points les plus délicats de cette fusion. On va pouvoir rentrer un petit peu dans les détails. Peut-être que ça reste un petit peu théorique pour vous, mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment central et délicat. On lit un peu des choses contradictoires. Moi, je vois par exemple que dans le débat précédent, notamment, on dit que la commune de Blenay vit à crédit. Sylvain Guillaume Gentil, qu'est-ce que ça veut dire pour vous finalement, votre commune vit à crédit?
Je ne sais pas. Moi, ce que je constate simplement, c'est qu'on a deux communes qui sont similaires. Elles ont le même taux d'impôt aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours le cas dans les fusions. Donc, on a une situation qui est plutôt favorable de ce point de vue-là. Enfin, un des points favorables, s'il y en a d'autres encore, mais par rapport à la fusion. En gros, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les questions de finances. On a effectivement des questions de dette et de qui sont un peu différentes, mais il faut voir pourquoi. Les opposants disent, voilà, il y a une dette importante à Saint-Légier, c'est Blenay qui va profiter de la situation. Enfin, d'une certaine manière, il faut regarder de manière globale. Oui, Saint-Légier a conjoncturellement des dettes plus importantes, mais par contre, elle a un patrimoine aussi plus important que Blenay. Et puis, pourquoi elle a une dette aujourd'hui plus importante? C'est parce qu'elle a investi récemment, il y a quelques années, dans un collège qui sert aux deux communes et sur lequel, d'ailleurs, Blenay verse une rente ou amortit d'une manière ou d'une autre cet équipement. Mais on prendrait une photographie dans 5 ou 10 ans, on aurait probablement une situation complètement différente entre les deux communes. Donc, voilà, de notre point de vue, les finances, et ça, j'aimerais aussi peut-être juste continuer là-dessus, je pense qu'au contraire, la fusion, et ça, c'est prouvé, tous les experts financiers peuvent le dire, c'est que le fait de fusionner ces deux communes-là vont plutôt renforcer leur solidité financière sur le long terme, vont renforcer leur capacité d'investissement. Et puis, dernier point, la question de la péréquation, plus la commune est grande, moins elle paye de péréquation aux autres communes. Donc, c'est en gros entre 1,5 million ou 1,7 million et 2 millions de plus pour les communes de Blenay ou la commune de Blenay-Saint-Léger qui serait là. Ce n'est pas un détail.
Marie-France Bernier, moi je vois la dette de Saint-Légier, 56 millions à peu près, non, 52 millions en 2018. Voilà, au 31 décembre 2019, elle était de 56 millions. Elle a donc augmenté. La dette de Blenay, on est à 42 millions en 2018. On peut dire que c'est un peu kiff-kiff.
Bon, je dirais que, comme l'a dit mon préopinant, il est clair que Saint-Légier est une commune qui a beaucoup investi ces dernières années, et particulièrement dans deux domaines, le domaine de la petite enfance en créant une crèche-garderie qui lui a coûté 3,7 millions, et en créant également donc le nouveau complexe scolaire de Clos-Béguin à plus de 20 millions. Donc ça, évidemment, là, ce sont des investissements qui ne sont pas des investissements qui sont faits seulement pour une commune, mais qui sont faits pour les deux communes de Blenay et de Saint-Légier. Maintenant, j'aimerais juste revenir sur le point de la péréquation intercommunale dont monsieur a parlé préalablement. Moi, je pense que la péréquation, c'est un sujet qui est pour le moins complexe. Il est très difficile à débattre aujourd'hui, car on sait que le canton va entrer en matière avec les communes pour remettre l'ouvrage sur le métier, pour rediscuter de la péréquation intercommunale, comme d'ailleurs la facture sociale a été rediscutée dernièrement. Donc, gain ou perte, je pense qu'actuellement, il est très difficile de se prononcer sur des chiffres, voire impossible.
Grégory Beauvais, les impôts, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas, ce taux d'impôt qui va devenir un petit peu intermédiaire? Je rappelle que pour Saint-Légier, on est à 67, pour Blenay, on est à 70. On a trouvé une solution intermédiaire.
Non, les deux aujourd'hui sont à 68,5.
68,5, oui, exactement.
Pour tous les deux. C'est d'ailleurs une grande chance, parce que bien souvent, comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, bien souvent dans des projets de fusion, les communes n'ont pas ce même taux unique. Et c'est ce qui pose bien souvent problème. Et donc là, c'est véritablement une chance pour Blenay et Saint-Léger d'avoir le même taux. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, moi, je suis assez content d'entendre Mme Vouillot par rapport à ses explications aux investissements de la commune de Saint-Léger qui a été réalisé en matière de petite enfance ainsi que pour le collège, parce que ça permet de bien se rendre compte que Saint-Léger a investi autant pour elle-même que pour l'autre commune. Vous savez qu'en matière de bâtiments scolaires, bien souvent, ce que font les communes, c'est qu'ils créent une association intercommunale, et ça permet en fait de sortir la dette des comptes communaux. Et ça permet de regarder les comptes d'une commune et puis pas avoir cette dette-là. Saint-Légier et Blenay n'ont pas pris ce pari et je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est plutôt un acte de transparence, de bien voir la situation comptable de la commune de Saint-Légier, comme Blenay l'avait fait il y a 20 ans lorsque elle avait dû construire le collège pour nos deux communes.
Charles Morard, vous avez un avis sur ces finances ?
Alors moi, sur les finances en elles-mêmes, voilà, comme vous l'avez si bien dit, moi je n'ai pas les compétences hein, pour juger là-dessus, si ce n'est que je pense que la fusion découle justement de cette volonté d'efficience et que vous voulez qu'elle agisse comme un remède miracle à des milliers de problèmes qui sont tout d'un coup découverts. Je pense que la fusion, elle précède à ces problèmes. De plus, j'ai l'impression que ça évolue. La fusion est l'aboutissement d'une évolution d'urbanisation de nos villages, qui sont déjà très urbanisés. En témoignent certains problèmes rencontrés avec des cloches de vaches dernièrement. Mais ce que je me posais comme question, pour en revenir au sujet d'avant, c'est justement... C'est des chiffres qu'on trouve très facilement sur Internet. Plus une commune est urbanisée, plus elle vote à gauche. Alors, je ne comprends pas comment un représentant des PLR a envie de voir sa commune être urbanisée.
Alors, j'ai cru qu'on n'allait pas vraiment faire de politique, mais voilà, il faut savoir que dans le canton, jusqu'à 15 000 habitants, ou jusqu'à 20 000 habitants, les communes sont plutôt du centre droit, et c'est au-delà de 20 000 habitants. De toute manière, ce qui est important de savoir, M. Morard, c'est que le tissu urbain, ce n'est pas nous qui le décidons. Vous savez, il y a une élection avec la LAT qui oblige de densifier un certain nombre d'endroits. Et puis, vu que nous sommes dans un tissu urbanisé de notre région, eh bien, nous devons densifier. Donc, c'est pas tout à fait correct ce que vous dites. Ensuite, par rapport à la question...
On va devoir conclure alors, très rapidement, oui.
Oui, non, je vous laisse... Je vais rebondir sur la question
de l'efficience et des questions économiques.
Alors, soyez efficient.
Je vais être efficient. Je crois que justement, on n'a jamais dit, et ça, je crois qu'on va vraiment être honnête, on n'a jamais dit que la fusion était là pour faire économiser de l'argent, ni à la population, ni aux communes. Par contre, c'est de faire mieux avec la même chose. Et je crois que c'est vraiment... Mais c'est le sens même du mot d'efficience. Voilà. Et je crois que c'est justement une occasion, la fusion, de faire des choses qu'on peut pas encore faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément dépenser moins, mais par contre, on va se permettre des choses, je ne sais pas, une politique culturelle, une politique par rapport à ça va permettre de débloquer des projets qui sont peut-être ici depuis latents, depuis longtemps. Donc voilà, c'est ça que ça va nous permettre. C'est finalement pas que ça nous coûte moins cher, on ne l'a jamais dit, mais par contre, de passer un cran et de donner un message d'espoir et de donner aussi d'alimenter un certain nombre de nouveaux projets qui ne demandent qu'à venir.
Marie-Françoise Bernier, je vous laisse la conclusion. Est-ce qu'on a pu débattre maintenant sereinement de ces objets ?
Je pense qu'on a pu sereinement débattre de ces objets. Pour moi, on a fait la démonstration ce soir que ce projet de fusion est une coquille vide, ce qui manque de projet de société et qui n'a pas, disons, qui n'a aucune envergure. Et on est là, on va voter sur un cadre dans lequel on va mettre ensuite peut-être quelque chose, mais pour l'instant, on ne sait pas quoi.
Merci. À vous tous, on le rappelle, le vote aura lieu le dimanche 27 septembre. Quant à ce débat, il sera rediffusé à loisir sur nos ondes et évidemment écoutable et partageable en tout temps sur radiochablais.ch. Belle soirée à toutes et à tous. Bye bye.
Radio Chablais,
spéciale élection.